Novembre. Le ramoneur. 1er novembre. Hier soir, je suis allée à la section des filles, située à côté de notre section Baretti, pour donner à la maîtresse de ma sœur Sylvia le récit du petit Padouan qu'elle désirait lire. Il y a dans cette section 700 filles. Au moment où j'arrivais, les élèves commençaient à sortir, toutes contentes à cause des vacances de la Toussaint et du jour des morts. En face de l'école, de l'autre côté de la rue, se tenait un petit ramoneur, le bras collé au mur, le front appuyé sur son bras. Il était tout noir de suie, ainsi que son sac, ses balais et sa raclette, et il pleurait, sanglotait à fendre l'âme. Deux ou trois jeunes filles de seconde s'avancèrent près de lui et lui demandèrent « Qu'as-tu à pleurer comme cela ?» Mais le petit ramoneur ne répondait pas et continuait de pleurer. « Mais dis donc ce que tu as! Pourquoi pleures-tu ? » lui répétèrent les élèves. Il détacha son visage de son bras, un visage d'enfant Jésus, et raconta qu'il avait été ramonné diverses cheminées pour la somme de 30 sous, qu'il les avait perdues, les ayant glissées par mégarde dans la fente d'une poche déchirée. Le pauvre petit n'osait plus retourner chez son patron sans argent, tant il avait peur d'être battu. Et il se remit à pleurer de plus belle, posant son front sur son bras comme un désespéré. Les fillettes se regardèrent entre elles, toutes sérieuses. D'autres venaient de se grouper, petites et grandes, pauvres filles d'ouvriers et riches demoiselles, leurs portefeuilles sous le bras. Une d'entre elles, une grande qui avait une plume bleue sur son chapeau, sortit dessous de sa poche en disant « Je n'ai que 2 sous, mais faisons une collecte !»« Moi aussi j'ai 2 sous !» dit une autre habillée de rouge. « Nous trouverons bien 30 sous entre nous toutes. » Et alors les élèves commencèrent à appeler. « Amélie, Louise, Anna, 1 sou, qui a des sous ici ?» Quelques-unes avaient de la monnaie pour acheter des cahiers et des fleurs. Elles l'apportèrent avec empressement. Quelques-unes, plus petites, offrirent des centimes. La fillette à la plume bleue recueillit l'argent et compta à haute voix. 8, 10, 15. Mais il en faut encore. » Il arriva une grande jeune fille qui paraissait être une sous-maîtresse et donna 10 sous. Toutes les élèves lui firent fête. Il manquait encore 5 sous. « Voilà les élèves de 4e qui arrivent. Elles ont des sous !» fit une petite. La 4e classe venue, les sous abondèrent. Les élèves se pressaient autour du ramoneur et c'était charmant de voir ce petit bonhomme noir au milieu de ces gentilles fillettes habillées de différentes couleurs, avec leurs cheveux flottants, leurs plumes claires et leurs rubans de soie. Les 30 sous étaient réalisés qu'il pleuvait encore de la menue monnaie. Les petites qui n'avaient pas d'argent se faisaient place à travers les grandes, apportant de petits bouquets de fleurs pour donner, elles aussi, quelque chose. Tout à coup, la portière accourut en criant « Madame la directrice !» Les fillettes se sauvèrent dans toutes les directions comme une volée de passereaux. Le petit ramoneur restait tout seul dans la rue, s'essuya les yeux. Non seulement il avait les mains pleines de sous, mais encore les jeunes filles avaient glissé dans les boutonnières de sa jaquette, dans ses poches, même dans son bonnet, une foule de petits bouquets de fleurs. Ainsi, riche et fleuri, il se trouvait heureux comme un roi. Abondance de biens ne nuit pas. Le jour des morts, 2 novembre. Ce jour est consacré à la commémoration des morts. Sais-tu, Henri, à quelle mort vous devriez penser, vous autres écoliers, en cette journée funèbre? À ceux qui moururent pour vous, pour les enfants. As-tu jamais pensé aux pauvres pères qui ont usé leur vie au travail, aux pauvres mères mortes de privation afin de pouvoir élever leurs enfants? Sais-tu combien de parents moururent de douleur à cause de l'ingratitude de leurs enfants ou par le chagrin de les avoir perdus? Pense à tous ces morts, mon Henri, et aussi aux professeurs et aux institutrices morts jeunes, tués par les fatigues incessantes du professorat. Pense aux médecins, aux infirmiers qui moururent pour avoir soigné des enfants atteints de maladies contagieuses. Pense à tous ceux qui, dans les naufrages, dans les incendies, dans les famines, dans un moment suprême de péril, Cède à l'enfance le dernier morceau de pain, la dernière planche de salut, la dernière corde pour échapper aux flammes, et expire, heureux d'avoir accompli un sacrifice qui sauve la vie d'un enfant. Ces morts héroïques sont innombrables, Henri, martyrs obscurs de l'enfance qui mériteraient d'avoir sur leur tombe toutes les fleurs qui croissent sur la terre. Enfant, vous êtes tant aimé. Pense aujourd'hui avec gratitude à ces morts que je te signale et tu seras meilleur pour ceux qui t'aiment et vivent pour toi, ô mon heureux fils, toi qui dans ce jour des morts n'as encore personne à pleurer. Ta mère. Mon ami Garonne, vendredi 4. Nous n'avons eu que 2 jours de vacances pour la Toussaint, et cependant il me semble qu'il y a un temps infini que je n'ai vu Garonne. Plus je le connais et plus je l'aime. Tous mes camarades ressentent la même sympathie, excepté les méchants auxquels Garonne sert d'obstacle. Chaque fois qu'un grand lève la main sur un plus petit, le petit appelle Garonne et le grand ne frappe plus. Son père est mécanicien au chemin de fer. Garonne, ayant été malade pendant 2 ans, a commencé un peu tard ses classes. Aujourd'hui, il est le plus grand et le plus vigoureux de la classe. Il enlève un banc d'une seule main. Avec cela, il est bon. N'importe ce qu'on lui demande, canif, crayon, gomme, papier, il vous le prête ou vous le donne, toujours de bon cœur. Il ne parle point, il ne fait pas de bruit dans la classe. Toujours immobile sur son banc, trop étroit pour lui, on le voit le dos arrondi et la tête dans les épaules. Quand je le regarde, il me sourit des yeux comme pour me dire « Nous sommes amis, n'est-ce pas, Henri ?» On s'en moque un peu parce que, grand et fort comme il est, sa jaquette, son pantalon, ses manches sont trop étroits et trop courts pour sa taille. Son chapeau ne lui entre pas sur la tête, une tête rasée, et il a de gros souliers et une cravate enroulée autour du cou comme une corde. Pauvre Garonne, il suffit de le voir pour l'aimer malgré tout cela. Les plus petits voudraient être près de son banc parce qu'il les protège. Il est très fort en arithmétique et porte ses livres en tas, liés par une courroie de cuir rouge. Il a un couteau à manche de nacre qu'il a trouvé l'année dernière sur la place d'armes, et un jour, il s'est coupé le doigt avec jusqu'à l'os. Mais personne à l'école ne s'en est aperçu et il n'en a pas soufflé mot chez lui pour ne pas effrayer ses parents. Lorsqu'on le plaisante, il ne s'en fâche point, mais gare si on lui dit « ce n'est pas vrai » quand il affirme quelque chose. Ses yeux jettent des éclairs et il frappe du poing sur le banc à le rompre. Samedi dernier, il a donné 2 sous à un élève de la première supérieure auquel on avait pris son argent et qui ne pouvait s'acheter un cahier. Maintenant, il est très occupé à écrire une lettre de 8 pages sur un papier tout enluminé de fleurs. C'est pour la fête de sa mère, une dame grande et grosse, très sympathique, qui vient le chercher souvent. Le maître regarde Garonne et avec bonté, et chaque fois qu'il passe près de lui, il lui caresse le cou comme on ferait à un petit taureau tranquille. « Je l'aime bien, décidément, mon ami Garonne. Je suis content de serrer sa grosse main dans la mienne. Je suis certain qu'il risquerait volontiers sa vie pour sauver un de ses camarades, qu'il le défendrait de toutes ses forces. Cela se lit si bien dans ses yeux. Le son de sa voix a beau être grondeur, on sent que cette voix est l'écho d'un cœur noble et généreux. » Le charbonnier et le gentilhomme. Lundi 7. Certes, ce n'est pas Garonne qui aurait dit à Betty ce que Carlo Nobis s'est permis de lui dire. Carlo Nobis est fier parce que son père est noble et riche. Monsieur Nobis, assez grand, ayant l'air sérieux et distingué, porte toute la barbe, une belle barbe noire, et accompagne presque tous les jours son fils à l'école. Hier matin, Nobis s'était querellé avec Betty, un des plus petits, le fils d'un charbonnier, et, ne sachant que lui dire, parce qu'il se sentait dans son tort, il s'écria « Ton père n'est qu'un gueux !» Betty rougit jusqu'aux cheveux, ne répondit rien, mais ses yeux se remplirent de larmes. En allant déjeuner chez lui, il répéta à son père ce qu'avait dit Nobis. Aussi, après le repas, voilà le père de Betty, un petit homme tout noir, qui vient se plaindre au professeur. Pendant qu'il exposait sa plainte au milieu d'un grand silence, le père de Nobis, qui aidait comme d'habitude son fils à enlever son pardessus à la porte, entendit le charbonnier prononcer son nom. Il entra pour savoir ce dont il s'agissait. « C'est ce pauvre homme, répondit M. Perboni, qui vient se plaindre parce que votre Carlo a dit à son enfant « Ton père n'est qu'un gueux ». M. Nobis fronça le sourcil et rougit un peu. « Est-ce vrai que tu as dit cela ? » demanda-t-il à Carlo. Celui-ci, debout au milieu de sa classe, le front baissé devant le petit Betty, ne répondit pas. Son père le prit par le bras et le poussa tout contre Betty, de façon qu'ils se touchassent presque. « Demande-lui pardon, » dit-il. Le charbonnier voulut s'interposer en disant « Non, non !» Mais le gentilhomme n'en tint pas compte et répéta à Carlo « Demande-lui pardon, répète mes paroles. Je te demande pardon, Betty, du mot injurieux, insensé, abject, que j'ai prononcé contre ton père, auquel le mien est fier de serrer la main. » Le charbonnier fit un geste de vive opposition, mais M. Nobis ne s'y arrêta pas, et son fils dut s'exécuter en disant d'une voix basse, sans oser lever les yeux de terre. « Je te demande pardon, Betty, du mot injurieux, insensé, abject, que j'ai prononcé contre ton père, auquel le mien est fier de serrer la main. » M. Nobis tendit alors sa main au charbonnier, qui la lui serra avec force, et poussa ensuite son fils dans les bras de Carlo Nobis. « Faites-moi la faveur de les mettre l'un à côté de l'autre, » dit le comte en s'adressant au professeur. M. Perboni mit Betty sur le banc de Carlo. Quand il fut replacé, M. Nobis salua et sortit. Le charbonnier resta quelques moments indécis, contempla les deux enfants réunis, puis s'approcha du banc, regarda Nobis avec une expression de sympathie et de regret. Sans rien dire, il allongea la main pour le caresser. Mais, n'osant le faire, il lui effleura seulement le front de ses gros doigts et disparut. « Souvenez-vous, mes enfants, de ce dont vous avez été témoins aujourd'hui, » nous dit le professeur. « C'est la plus belle leçon de l'année. » L'institutrice de mon frère. Jeudi 10. Mademoiselle Delcat y est venue nous voir aujourd'hui, sachant que mon frère était un peu souffrant. Le fils du charbonnier a été aussi son élève. Elle nous a fait bien rire en nous racontant comment la mère de Betty lui porta un jour chez elle quelques boisseaux de charbon dans son tablier pour la remercier d'avoir donné la croix de sagesse à son fils. La pauvre femme s'obstinait à vouloir lui faire accepter ce petit cadeau, pleurant presque d'être obligée de remporter son tablier plein. Une autre fois, une bonne femme, mère d'un de ses petits élèves, lui avait apporté un bouquet de fleurs très lourd et, au milieu de ce bouquet, elle trouva une tirelire remplie de sous neufs. Nous avions plaisir à l'entendre et mon frère voulut bien prendre sa médecine pour faire plaisir à Mademoiselle Delcati. Quelle patience il faut avoir avec ces petits élèves de la première inférieure! Tous édentés comme des vieux qui ne prononcent ni les R ni les S. L'un tousse, l'autre saigne du nez, celui-ci perd ses sabots sous le banc, celui-là crie parce qu'il s'est piqué avec la plume, enfin un autre pleure parce qu'il a acheté le cahier numéro 1 au lieu du cahier numéro 2. Et il y a ainsi une cinquantaine de bébés auxquels il faut apprendre à lire, à écrire, à compter. Chacun de ces petits êtres apporte dans ses poches des bâtons de réglisse, des pastilles de menthe, des boutons, des bouchons, des cailloux. La maîtresse doit parfois les fouiller, mais ils cachent leurs trésors jusque dans leurs souliers. Sont-ils attentifs, au moins ? Allons donc, une grosse mouche entrée par la fenêtre met toutes les têtes en l'air. L'été, ils apportent à l'école des hannetons qui volent en bruissant ou tombent dans les encriers et tracent des rayures pleines d'encre sur les cahiers. L'institutrice doit remplacer la maman de tous ses petits élèves, les aider à s'habiller, bander les doigts piqués, attacher les bérets qui s'en vont, faire attention à ce qu'on ne change pas les manteaux, sinon les bébés crient et pleurent. Pauvre institutrice, et quelquefois encore, les mamans viennent se plaindre. « Comment se fait-il, mademoiselle, que mon enfant ait perdu sa plume ? » Comment se fait-il qu'ils n'apprennent rien ? Pourquoi n'avez-vous pas donné la mention au mien qui travaille si bien ? Pourquoi n'avez-vous pas fait enlever ce clou du banc où mon pauvre Pietro a déchiré son pantalon neuf ? Quelquefois, la patience échappe à la pauvre institutrice. Elle gronde ses petits élèves, puis elle se repent et caresse l'enfant qu'elle a grondé. Elle chasse un moutard de l'école, mais se laisse toucher par ses larmes et fait des reproches aux parents qui font jeûner leurs enfants pour les punir. C'est une grande et belle jeune fille que Mademoiselle Delcati, bien mise, vive, impressionnable et tendre. « Au moins, les enfants ont-ils quelque affection pour vous ?» lui demande maman. « Oui, seulement l'année suivante, ils me quittent pour aller dans une autre classe et ne me regardent plus. Quand ces petits ingrats sont entrés dans les classes où il y a des professeurs, ils semblent honteux d'avoir passé par mes mains, c'est à peine s'ils nous disent bonjour. Et c'est toujours ainsi. Après 2 ans, pendant lesquels on a sué sang et eau pour des enfants que l'on aime tendrement, il faut les quitter et ne plus les revoir. Pour quelques-uns dont nous croyons être sûrs, nous nous disons « Oh, celui-là m'aimera toujours !» Les vacances terminées, il ne pense plus à nous. « Mais tu ne feras pas comme cela, toi, mon petit !» dit tout à coup Mademoiselle Delcati en se levant pour embrasser mon petit frère. « Tu ne tourneras pas la tête de l'autre côté quand tu passeras près de moi. Tu ne renieras pas ta pauvre amie, ta bonne maîtresse. » Ma mère, jeudi 10 novembre. En présence de l'institutrice de ton frère, tu as manqué de respect à ta mère. Que cela ne t'arrive plus jamais, mon Henri. Ton insolence m'est entrée dans le cœur comme un poignard. Je pensais à ta mère lorsqu'il y a quelques années, elle passa toute une nuit inclinée sur ton berceau, épiant ta respiration haletante, pliée sous l'angoisse, pleurant comme une insensée, redoutant de te perdre. À ce souvenir, je n'ai pu réprimer un mouvement de colère contre toi. Pense donc, Henri, toi, offenser ta mère qui donnerait 1 an de bonheur pour t'éviter 1 heure de souffrance, qui mendierait pour toi et se ferait tuer pour sauver ta vie. Songe-y bien, Henri, dans cette vie t'attendent des jours bien tristes, mais le plus triste de tous sera celui où tu perdras ta mère. Quand tu seras grand, quand tu seras un homme éprouvé à toutes les luttes, tu invoqueras ta mère avec un désir immense d'entendre sa voix et de voir ses bras ouverts pour te recevoir en pleurant comme un pauvre enfant sans protection et sans force. Tu te rappelleras alors avec amertume les peines que tu lui auras causées. Le remords te les fera chèrement payer. Malheureux, n'espère pas de paix dans ta vie si tu as attristé ta mère. Tu auras beau te repentir, lui demander pardon, vénérer sa mémoire, ce sera inutile. La conscience ne te donnera point de repos. L'image douce et bonne de ta mère mettra ton âme à la torture. Souviens-toi, Henri, que l'amour filial est l'amour le plus sacré. Malheur à qui le foule aux pieds. L'assassin qui respecte sa mère a encore quelques sentiments honnêtes dans le cœur. L'homme le plus glorieux qui l'afflige et l'offense n'est qu'une créature indigne. Que jamais il ne sorte de ta bouche une parole dure envers ta mère, et que ce ne soit pas la crainte de ton père, mais l'élan de cœur qui te fasse te jeter à ses pieds et lui demander pardon. Supplie-la de t'embrasser afin que ce baiser efface sur ton front la marque de ton ingratitude. Je t'aime, mon fils, tu es la plus chère espérance de ma vie. Mais j'aimerais mieux te voir mort qu'ingrat envers ta mère. Va, et pour quelque temps, abstiens-toi de m'embrasser, je ne pourrai te rendre ton baiser de bon cœur. Ton père. Mon camarade Coretti, dimanche 13. Mon père m'a pardonné, mais comme j'étais encore un peu triste, ma bonne mère m'a envoyé cet après-midi faire une promenade sur le Corso avec le fils aîné du concierge. À la moitié à peu près du Corse, comme nous passions près d'une charrette arrêtée devant une boutique, je m'entendis appeler. Je me retournai. C'était Coretti, mon camarade de classe, avec son jersey loutre et son béret en peau de chat. Il était tout en sueur et paraissait content. Il portait sur son épaule une charge de bois assez forte. Un homme, debout sur la charrette, lui tendait des bûches qu'il transportait dans la boutique de son père. Là, il les disposait en monceaux, puis revenait vivement vers la voiture. « Que fais-tu, Coretti ? » lui demandai-je. « Tu le vois bien ?» me répondit-il en tendant ses bras pour prendre une charge. « Je travaille et en même temps je repasse ma leçon. » Je me mis à rire. Mais Coretti parlait sérieusement et tout en prenant le bois, il commença à murmurer en courant vers la boutique. On appelle l'accident du verbe ses variations en nombre et en genre et ses variations de personnes. Et jetant le bois tout en l'amoncelant, selon le temps auquel se rapporte l'action, continua-t-il. Puis s'approchant encore de la charrette pour prendre une autre brassée de bois, selon le mode par lequel l'action est énoncée, ajouta-t-il. Il répétait ainsi notre leçon de grammaire pour le jour suivant. « Que veux-tu ? » me dit-il. « Je mets le temps à profit. Mon père est sorti avec le garçon pour livrer une commande. Ma mère est malade. Il faut bien que j'aide à décharger la voiture. Cela ne m'empêche pas de répéter ma grammaire. Nous avons une leçon difficile aujourd'hui. Je ne peux pas me la mettre dans la tête. » « Mon père m'a dit qu'il serait ici à 7 heures pour vous payer, » ajouta-t-il en s'adressant au charretier. La voiture partit. « Entre un instant dans la boutique, » me dit Coretti. Craignant que mon refus lui causât quelque déplaisir, j'entrai dans une grande pièce pleine de bois et de fagots, où se trouvait une balance placée non loin de la porte. « Aujourd'hui a été un jour de tracas pour moi, je te l'assure, » reprit Coretti. Je fais mes devoirs par bribes et par morceaux. J'étais en train d'écrire les prépositions quand on est venu pour une commande. Je m'y remettais. Bon, voilà le charretier qui arrive. Ce matin, j'ai déjà fait 2 courses jusqu'au marché au bois, place de Venise. Je ne sens plus mes jambes et j'ai les mains gonflées. Je serais propre si j'avais à faire le devoir de dessin. Tout en parlant, le courageux enfant donnait un coup de balai pour enlever les feuilles sèches qui couvraient le plancher. « Mais où fais-tu tes devoirs, Coretti ? » lui demandai-je. « Par ici, viens voir. » Il me conduisit dans l'arrière-boutique qui servait de cuisine et de salle à manger. Dans un coin, sur une table, étaient posés les livres et les devoirs commencés. « Justement, » dit Coretti, « j'ai laissé la seconde réponse en l'air. Avec le cuir, on fait... les chaussures, les courroies, maintenant j'ajoute les valises. » Et prenant la plume, Coretti se mit à écrire de sa belle écriture. « Il n'y a personne ?» demanda une voix dans la boutique. C'était une femme qui venait acheter des fagots. « Me voilà !» s'écria Coretti, et quittant la chambre, il pesa des fagots, reçut l'argent, courut à un coin où était pendue une ardoise, y inscrivit sa vente, puis revint à son devoir en me disant « Voyons un peu si on me laissera finir ma page. » Et il continua à écrire « Les sacs de voyage, les gibernes pour les soldats. » « Oh, mon pauvre café qui s'en va » fit-il en s'interrompant tout à coup. Puis, courant au fourneau, il enleva la cafetière du feu. « C'est le café de maman, » me dit-il. « Nous allons le lui porter ensemble, veux-tu ? Elle te verra et cela lui fera plaisir. » Il y a 7 jours qu'elle est au lit. Tiens, les accidents du verbe, les voilà. Je me brûle toujours les doigts avec cette cafetière. Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute encore après les gibernes des soldats? Il y a quelque chose, mais je ne le trouve pas. Viens ici. Mon petit camarade ouvrit une porte et nous entrâmes dans la chambre où la mère de Coretti y était couchée. Elle occupait un grand lit et sa tête était enveloppée d'un fichu blanc. « Voilà le café, maman !» dit Coretti en tendant la tasse, et me désignant du regard. « Je te présente un de mes camarades de classe, » ajouta-t-il. « Ah, c'est très bien, monsieur, de venir voir les malades !» dit la brave femme. Coretti arrangea les oreillers derrière les épaules de sa mère, borda la couverture, ranima le feu et chassa le chat qui s'était sans façon installé sur la commode. « Vous n'avez besoin de rien autre, maman ?» demanda Coretti en reprenant la tasse. « Avez-vous pris vos 2 cuillères de sirop ? Quand vous n'en aurez plus, j'irai en chercher chez le pharmacien. Le bois est rangé. À 4 heures, je mettrai la viande au feu, comme vous me l'avez dit, et lorsque la marchande de beurre passera, je lui donnerai ses 8 sous. Soyez tranquille, maman, tout ira bien. »« Bien, mon enfant, » répondit la charbonnière. Tu penses à tout, pauvre chérie !» Coretti me montra un petit cadre contenant la photographie de son père en uniforme de soldat où brillait la médaille de la valeur militaire qu'il gagna en 1866 lorsqu'il faisait partie du régiment du prince Humbert. C'est le même visage que mon ami Coretti, les yeux vifs, le sourire content. Nous rentrâmes dans la cuisine. « J'ai trouvé !» dit Coretti. Et il courut à son cahier sur lequel il ajouta « On fait aussi les harnais des chevaux. » « Le reste, je le ferai ce soir. Je veillerai un peu. »« Tu es bien heureux, Henri, » ajouta-t-il, « d'avoir le temps d'étudier et de te promener. » Toujours joyeux et leste, il me conduisit dans la boutique. Là, il mit des morceaux de bois sur le chevalet, les sciant en deux traits tout en me disant « Voilà de la gymnastique bien supérieure à la poussée des bras en avant. Je veux que mon père trouve tout ce bois scié quand il reviendra. Il sera si content. » Malheureusement, après avoir scié, j'écris les T et les L qui ressemblent à des serpents, comme dit le professeur. Que puis-je y faire? Je dirai la vérité. J'ai dû remuer les bras et les doigts s'en ressentent. Le principal est que maman guérisse vite et aujourd'hui elle va mieux grâce à Dieu. Quant à la grammaire, je l'étudierai demain matin de bonne heure. Ah, voilà la voiture de charbon. Au travail! Une charrette pleine de sacs noirs s'arrêta devant la boutique. Coretti courut parler à l'homme et revint. « Maintenant, je ne puis plus te garder, » me dit-il. « À demain et merci d'être venu me voir un peu. Bonne promenade, heureux Henri !» Et me serrant la main, il courut prendre le premier sac sur son dos, recommençant à trotter de la boutique à la charrette et de la charrette à la boutique, le teint frais sous son béret en peau de chat, et toujours si vif, si gai, si empressé, que c'était plaisir de le voir. « Heureux Henri, » m'a-t-il dit. « Ah non, Coretti, non, tu es plus heureux que moi. Tu étudies et tu travailles tout à la fois. Tu es plus utile à ton père et à ta mère, tu es plus courageux que moi et 100 fois meilleur, mon cher camarade. » Le directeur, vendredi 18. Coretti était content ce matin, parce que son maître de seconde, M. Coatti, est venu assister à son examen mensuel. Ce M. Coatti est d'une stature élevée, a les cheveux crépus, des yeux sombres et une voix formidable. Il menace toujours les enfants de les faire punir et même de les conduire en prison, mais il ne punit personne et rit dans sa barbe de la peur qu'il cause à ses élèves. Notre école municipale compte 8 professeurs, y compris un suppléant, petit et imberbe, qui paraît tout jeune. Quant à notre directeur, il est grand, chauve, porte des lunettes d'or et a une barbe grise qui descend sur sa poitrine. Sa redingote est toujours boutonnée correctement jusqu'au menton et on voit tout de suite qu'il est bon avec les enfants. Lorsque ceux-ci entrent en tremblant dans son cabinet, appelés pour une observation, le directeur ne les gronde point. Mais il les prend par la main, puis il les raisonne avec douceur. Il leur explique ce qu'ils auraient dû faire et, en général, ils se repentent de leurs fautes, promettant de ne plus recommencer. Il leur parle enfin avec tant de bonté et les persuade si bien que les écoliers sortent de chez lui les yeux rouges, plus confus que s'ils avaient été punis. Pauvre directeur, il est toujours le premier et le dernier à son poste. Le matin, attendant les écoliers et répondant aux parents, le soir, lorsque les professeurs sont partis, surveillant les alentours de l'école pour voir si les enfants ne se jettent pas sous les voitures, s'ils ne se battent point dans la rue ou s'ils ne remplissent pas leurs gibernes de sable et de pierre pour se les jeter à la tête. Lorsque sa silhouette apparaît au détour d'une rue, on voit s'échapper en courant une troupe d'enfants qui abandonnent brusquement le jeu de billes ou de bouchons. Le doigt du bon directeur les menace de loin, mais son air tendre et triste à la fois promet en même temps la clémence. Maman m'a dit que personne ne l'a vu rire depuis qu'il a perdu son fils, un jeune volontaire dont le portrait est toujours sur la table de la direction. Aussitôt après le malheur qui le frappa, notre directeur voulut donner sa démission. Il avait écrit une lettre demandant sa retraite. Mais il remettait de jour en jour son envoi. Il lui coûtait de laisser ses écoliers. Cependant, l'autre soir, mon père était dans son cabinet. Il paraissait décidé à envoyer sa demande. Mon père lui exprimait ses regrets de le voir quitter la direction lorsqu'un homme entra tout à coup. Il venait faire inscrire son fils à la section Baretti. En voyant l'enfant, le directeur eut un mouvement de surprise, regarda tour à tour le nouveau venu et le portrait posé sur son bureau. Puis, attirant l'écolier entre ses jambes, il le regarda bien en face. Cet enfant ressemblait étonnamment au fils qu'il avait perdu. Le directeur inscrivit le nom du nouvel écolier, congédia le père et l'enfant, non sans avoir passé sa main sur la tête brune de ce dernier, puis vint se rasseoir tout pensif à son bureau. « Quel dommage que vous vouliez quitter la direction !» répéta mon père, reprenant la conversation interrompue. À ces paroles, notre directeur parut s'éveiller de sa méditation, prit sa lettre de démission et la déchira en disant « Je reste !» Les soldats. Mardi 22. Le fils du directeur était volontaire quand il mourut. Voilà pourquoi le pauvre père va toujours sur le Corse quand nous sortons de l'école pour voir passer les soldats. Hier, un régiment d'infanterie défilait. Une cinquantaine de gamins sautillaient autour des musiciens, battant la mesure avec leurs règles sur leurs gibecières. Nous autres, nous restions en groupe sur le trottoir. Garonne est serrée dans ses habits trop étroits et mordant à même un gros morceau de pain. Vautine, toujours bien mis et soigné, à côté de Précosse, le fils du serrurier, qui porte la jaquette de son père. Le Calabrais, le petit maçon, Crossi aux cheveux rouges, Franti à l'air effronté, et Robetti, le fils du capitaine d'artillerie, celui qui sauva un enfant de dessous l'omnibus et qui marche maintenant avec des béquilles. Nous étions tous là à voir défiler les militaires. Franti se mit à rire en voyant un soldat qui boitait. Il sentit aussitôt une main sur son épaule. Franti se retourna et vit notre directeur. « Voyez-vous, Franti, se moquer d'un soldat qui est dans les rangs et ne peut ni répondre ni se défendre, c'est comme si on insultait un homme lié. Cela s'appelle une lâcheté. » Franti s'éclipsa. Les soldats passaient quatre à quatre, tout en sueur et couverts de poussière. Leurs fusils scintillaient au soleil. « Vous devez aimer les soldats, mes enfants, » nous dit le directeur. « Ce sont nos défenseurs. Ils iraient se faire tuer demain pour nous si une armée étrangère menaçait notre territoire. Ce sont des enfants, eux aussi. Ils ont peu d'années de plus que vous. Ils sont aussi à l'école du régiment, et il y a parmi eux, comme parmi nous, des pauvres et des riches qui sont venus de toutes les parties de l'Italie. Regardez, on peut presque les reconnaître à leur type. Ils passent des Siciliens, des Sardes, des Napolitains, des Lombards. Ce régiment-ci est un vieux régiment qui a combattu en 1848. Si ce ne sont plus les mêmes soldats, c'est toujours le même drapeau. Combien d'hommes sont morts pour le pays autour de ce drapeau, 20 ans avant votre naissance ?« Voilà le drapeau !» dit Garonne. On voyait en effet onduler l'oriflamme rouge, blanche et verte au-dessus des têtes des soldats. « Allez, mes enfants, reprit le directeur, rendez hommage à l'armée. Faites votre salut d'écolier, la main au front, qu'en passent les trois couleurs. » Le drapeau porté par un officier passa devant nous, tout usé et déchiré, une médaille attachée à la hampe. Tous ensemble, nous portâmes la main à notre front. L'officier nous regarda, sourit et nous rendit le salut militaire. « Bravo, mes enfants !» dit une voix derrière nous. Nous nous retournâmes et vîmes un vieillard qui avait à la boutonnière de son habit le ruban bleu pâle de la campagne de Crimée. C'était un officier retraité. « Bravo, mes enfants !» reprit-il. « C'est bien ce que vous faites là. Celui qui respecte le drapeau étant petit saura le défendre quand il sera grand. » Et pendant que ce brave homme parlait, le drapeau du régiment flottait là-bas sur le corso, entouré d'une foule d'enfants dont les cris joyeux accompagnaient la musique militaire. Le protecteur de Nelly. Mercredi 23. Nelly aussi regardait hier passer les soldats. Pauvre petit bossu, il avait l'air triste et se disait « Je ne pourrai jamais être soldat, moi ». Le pauvre enfant étudie beaucoup, mais il est si maigre et si pâle qu'il s'essouffle tout de suite. Sa mère, une petite dame blonde vêtue de noir, vient le chercher quand on prononce le finis, pour qu'il ne soit pas bousculé à la sortie. Il faut voir comme elle le caresse. Les premiers jours, les élèves se moquaient de la bosse de Nelly et lui heurtaient le dos avec leur gibecière. Mais lui ne se révoltait jamais et ne le disait pas à sa mère. Il voulait lui éviter le chagrin d'apprendre que son fils était le souffre-douleur de ses camarades. On se moquait de Nelly et le pauvre petit pleurait silencieusement, le front appuyé sur son pupitre. Un jour, Garonne intervint et dit aux écoliers « Le premier qui touche Nelly aura affaire à moi, je lui donnerai une volée dont il se souviendra. » Franti ne tint aucun compte des menaces de Garonne et reçut la volée en question, une volée qui lui fit faire 3 tours sur lui-même. Depuis ce temps, personne n'inquiète plus Nelly. M. Perbonne y a mis Garonne sur le même banc que son protégé et ils sont devenus une paire d'amis. Nelly adore Garonne. À peine entre-t-il en classe qu'il cherche des yeux s'il voit Garonne. Il ne part jamais sans lui dire au revoir et Garonne fait de même. Quand Nelly laisse tomber une plume ou un livre sous le banc, Garonne se baisse aussitôt pour les lui ramasser, de peur que son ami ne se fatigue. Puis il l'aide aussi à serrer ses livres dans son portefeuille et à mettre son pardessus. C'est pourquoi Nelly aime tant Garonne et se réjouit tant lorsque le professeur lui fait des compliments. On dirait que c'est à lui, Nelly, qu'on les adresse. Je crois bien que Nelly aura tout dit à sa mère, les taquineries des premiers jours et l'intervention de son ami, car voici ce qui est arrivé ce matin. M. Perbonne y m'envoya porter au directeur le programme de la leçon une demi-heure avant le finis, et j'étais là lorsqu'entra une dame blonde vêtue de noir, la mère de Nelly. Elle demanda au directeur « N'y a-t-il pas dans la classe de mon fils un élève qui s'appelle Garonne ?»« Oui, madame. » « Auriez-vous la bonté de le faire venir un moment ici? J'aurais à lui dire un mot. » Le directeur sonna le portier et l'envoya chercher Garonne, qui arriva une minute après, l'air tout étonné d'être appelé par le directeur. À peine Madame Nelly eut-elle aperçu le gros garçon qu'elle courut à lui, le prit par la tête et l'embrassa à plusieurs reprises. « C'est toi, Garonne, l'ami de mon fils, le protecteur de mon pauvre petit ? « C'est toi, cher enfant !» Puis elle chercha dans sa poche et dans sa bourse. Mais ne trouvant rien, elle détacha de son cou une petite chaîne d'or à laquelle pendait une croix et la passa au cou de Garonne en lui disant « Prends ce petit souvenir, cher enfant, prends-le de la main d'une mère qui te bénit et te remercie. » Le premier de la classe. Garonne gagne tous les cœurs et De Rossi gagne tous les points. Il a obtenu la première médaille et sera le premier encore cette année. Personne ne peut lutter avec lui, on reconnaît sa supériorité en toutes les matières. Premier en arithmétique, en grammaire, en composition, en dessin, il comprend avec une facilité extraordinaire et possède une mémoire surprenante. Il réussit à tout sans effort et il semble que l'étude soit pour lui un jeu. Le maître lui disait encore hier « Vous avez reçu de grands dons de Dieu, tâchez de ne pas les gaspiller. » Il est impossible de ne pas l'envier, de ne pas se sentir au-dessous de lui en toute chose. « Ah, je suis comme Votini, moi aussi, j'envie De Rossi. J'éprouve de l'amertume, presque de l'aigreur. Lorsque je suis à la maison, faisant mes devoirs, je pense que De Rossi a dû déjà achever les siens, sans fautes et sans fatigue. » Et puis, lorsque je retourne à la classe et que je vois mon camarade riant, beau et triomphant, quand j'entends ses réponses aux questions du professeur, réponses franches et nettes, alors toute l'amertume, toute l'aigreur s'enfuit de mon cœur et j'ai honte d'avoir éprouvé ces vilains sentiments. Je voudrais être toujours près de lui, faire toutes mes classes avec lui, car sa présence me donne le courage et le désir de travailler en partageant son ardeur. M. Perbonne nous lira demain notre récit mensuel qu'il a donné à copier à De Rossi. Cela s'appelle « La petite vedette lombarde ». En copiant ce matin ce fait héroïque, Derossi avait les yeux humides et la bouche tremblante. Je le regardai et j'aurais été heureux de pouvoir lui dire « Derossi, tu vaux plus que moi. Tu es un homme en comparaison du petit Henri qui te respecte et voudrait pouvoir t'imiter. » La petite vedette lombarde. Récit mensuel. Samedi 26. C'était en 1859, pendant la guerre pour la délivrance de la Lombardie, quelques jours après la bataille de Solferino et de San Martino, gagnée par les Français et les Italiens sur les Autrichiens. Par une belle matinée du mois de juin, un petit peloton de cavaliers de Saluces s'en allait au pas du côté de l'ennemi, dans un sentier solitaire, explorant attentivement la campagne. La brigade était commandée par un officier et un brigadier. Ils regardaient au loin devant eux, muets, et prêts à voir paraître d'un moment à l'autre les uniformes blancs des avant-gardes ennemies. Ils arrivèrent ainsi à une maisonnette rustique, entourée de frênes, et devant laquelle se trouvait un garçon d'une douzaine d'années qui écorçait un rameau de frêne avec son couteau pour s'en faire une canne. D'une fenêtre de la maison pendait un large drapeau tricolore. À l'intérieur, il n'y avait personne. Les paysans, une fois le drapeau attaché, s'étaient enfuis par peur des Autrichiens. Lorsque le garçon aperçut les cavaliers, il jeta son bâton et leva sa casquette. C'était un beau garçon aux cheveux blonds, au visage hardi, éclairé par de grands yeux bleus. Il était en manches de chemise et sa poitrine nue apparaissait par la fente de la chemise. « Que fais-tu ici ? » lui demanda l'officier en arrêtant son cheval. « Pourquoi ne t'es-tu pas sauvé avec ta famille ?»«
Je n'ai pas de famille, » répondit le garçonnet. « Je suis un enfant trouvé. Je travaille pour ceux qui veulent de moi. Je suis resté ici pour voir la guerre. »
« As-tu vu passer les Autrichiens ?»«
Non, pas depuis 3 jours. »
L'officier se recueillit un instant, puis sauta à bas de son cheval et, laissant ses soldats tourner du côté de l'ennemi, il entra dans la maisonnette et monta sur le toit. La maison était basse, on ne voyait du haut du toit qu'une faible étendue de la campagne.
« Il faut monter sur les arbres, » dit l'officier en descendant.
Juste devant l'entrée se dressait un frêne très haut dont la cime légère se balançait dans l'azur. L'officier demeura pensif, regardant tantôt l'arbre et tantôt les soldats, puis tout à coup
« As-tu bonne vue, mon petit ?» demanda-t-il à l'enfant.
« Moi, je vois un oiseau à 1 kilomètre.
Pourrais-tu monter à la cime de cet arbre ?»«
En haut de cet arbre-là, j'y grimpe en une demi-heure. »
« Et saurais-tu me dire ce que tu verras là-haut, s'il y a des soldats autrichiens de ce côté, des nuages de poussière, des chevaux ou des fusils qui brillent ?»«
Certainement, je saurais vous le dire. »«
Qu'est-ce que tu veux pour me rendre ce service ?»«
Ce que je veux, » répondit le garçon en riant.
« À rien, parbleu. Si c'était pour les teutons, à aucun prix. Mais pour nos soldats, je suis lombard. »«
Bien, grimpe alors. »
« Un instant que je me débarrasse de mes souliers. »
Il enleva sa chaussure, serra la ceinture de son pantalon, jeta sa casquette sur l'herbe et embrassa le tronc de l'arbre.
« Fais attention !» s'exclama l'officier, pris d'une terreur subite.
Le garçonnet se retourna, regardant l'officier de ses beaux yeux bleus dans une muette interrogation.
« Rien !» dit l'officier. « Monte !»
L'enfant grimpa comme un chat.
« Regardez devant vous !» cria l'officier à ses soldats.
En quelques instants, l'enfant était arrivé à la cime du grand arbre, enlacé au tronc, les pieds pendus dans les feuilles, mais le buste découvert. Le soleil donnait sur sa tête blonde, qui semblait avoir des reflets dorés. L'officier voyait à peine la vedette, tant elle paraissait petite là-haut.
« Regarde droit devant toi et au loin !» cria l'officier.
L'enfant, pour mieux voir, détacha sa main droite des hanches où elle s'appuyait et l'éleva devant ses yeux.
« Que vois-tu ? » demanda l'officier.
L'enfant se pencha vers lui et, faisant de sa main un porte-voix, répondit
« Deux hommes à cheval sur la route.
À quelle distance d'ici ?
À 1 kilomètre.
Ils montent ?
Ils sont arrêtés.
Que vois-tu encore ? demande l'officier après un moment de silence.
« Regarde à droite !» L'enfant regarda à droite, puis il dit « Près du cimetière, entre les arbres, il y a quelque chose qui brille. On dirait des baïonnettes. »
« Tu vois des hommes ?»«
Non, ils sont cachés dans les blés. »
En ce moment, le sifflement aigu d'une balle passa dans l'air et alla mourir bien loin derrière la maison.
« Descends, enfant !» cria l'officier. « On t'a vu, je ne veux plus rien savoir. Descends !»«
Je n'ai pas peur !» répondit le garçonnet.
« Descends !»« Que vois-tu encore à gauche ?»«
À gauche ?»«
Oui, à gauche !» L'enfant tourna la tête vers la gauche. De ce côté, un sifflement de balle plus aigu passa plus bas que le premier. L'enfant tressaillit de la tête aux pieds.
« Diable d'Autrichien ! » s'exclama-t-il. « Ils en veulent décidément à moi !»
La balle avait sifflé à ses oreilles.
« Descends tout de suite !» cria l'officier d'une voix impérieuse et irritée.
« Je descends !» répondit l'enfant. « Mais l'arbre me protège, n'en doutez pas !» « Voulez-vous savoir ce qu'il y a à gauche ?»«
À gauche ?» répondit l'officier. « Non, descends !»«
À gauche ?» cria l'enfant, penchant son buste de ce côté. « Il me semble voir près de la chapelle !» Une troisième balle siffla là-haut, et aussitôt, on vit l'enfant dégringoler, se retenant aux troncs et aux branches, puis tomber la tête en bas, les bras ouverts.
« Malédiction !» s'écria l'officier en accourant.
L'enfant s'abattit le dos contre terre et resta étendu, les bras en croix. Un filet de sang s'échappait de sa poitrine. Le brigadier et deux soldats sautèrent de cheval, tandis que l'officier se penchait sur l'enfant et ouvrait sa chemise. La balle était entrée dans le poumon gauche.
« Il est mort !» s'écria l'officier.
« Non, il vit !» reprit le brigadier.
« Ah, le pauvre enfant ! Le brave enfant ! » dit l'officier. « Courage, courage !»
Mais pendant qu'il lui disait « Courage !» et appuyait son mouchoir sur la blessure de l'enfant, celui-ci ouvrit démesurément ses yeux qui restèrent fixes et sa tête retomba inerte. Il était mort. L'officier pâlit et contempla un moment l'enfant étendu sur l'herbe. Il se releva ensuite, le regarda encore, tandis que quelques-uns de ses hommes restaient immobiles à ses côtés. Les autres soldats étaient tournés du côté de l'ennemi.
« Pauvre enfant !» répéta tristement l'officier. « Pauvre et courageux enfant !»
S'approchant alors de la maison, il enleva de la fenêtre le drapeau tricolore et l'étendit comme un linceul sur le petit mort, laissant son visage à découvert. Le brigadier ramassa et posa auprès de lui ses souliers, sa casquette, son bâton inachevé, son couteau. L'officier demeura un moment silencieux, puis se tournant vers le brigadier, « Nous l'enverrons chercher par l'ambulance, » dit-il. « Il est mort en soldat, ce sont les soldats qui l'enseveliront. » Cela dit, il envoya de la main un baiser au petit mort et cria « À cheval !» Les soldats remontèrent en selle et le peloton continua son chemin. Quelques heures plus tard, le petit mort devait recevoir les honneurs militaires. Au coucher du soleil, toute la ligne des avant-postes italiens s'avançait vers l'ennemi. Sur le chemin parcouru le matin même par les cavaliers, venait sur deux files un bataillon de bersagliers qui avait, quelques jours auparavant, répandu valeureusement son sang à la bataille de San Martino. La nouvelle de la mort du garçonnet avait couru dans les rangs des soldats avant qu'ils eussent quitté le campement, et le sentier, bordé d'un ruisseau, passait à quelques pas de la maison. Quand les premiers officiers du bataillon virent le petit cadavre étendu au pied du frêne, enveloppé du drapeau tricolore, ils le saluèrent avec leurs sabres, et l'un d'eux, se penchant sur le bord du ruisseau, arracha des fleurs et les jeta sur le corps de l'enfant. Alors tous les bersagliers, à mesure qu'ils passaient, imitèrent leur chef et jetèrent des fleurs sur le petit mort. En quelques minutes, il en fut couvert. Officiers et soldats le saluaient tous en passant.
« Bravo, petit Lombard !
Adieu, cher enfant !
À toi, pauvre blondin !
Tu es un brave !
Gloire à toi, mon petit !
Adieu !» Un officier lui jeta sa médaille de la valeur militaire, un autre déposa un baiser sur son front, et les fleurs continuèrent à pleuvoir sur les pieds nus, sur la poitrine ensanglantée, sur la tête blonde de l'enfant qui reposait enveloppé dans son drapeau. Le visage du pauvre petit garçon semblait sourire, comme s'il eût entendu les saluts, et fut heureux d'avoir donné sa vie pour sa Lombardie. Les pauvres. Mardi 29. Donner sa vie pour son pays, comme le petit Lombard, est une grande vertu. Mais il est d'autres vertus qu'il ne faut pas négliger, mon fils. Ce matin, comme tu marchais devant moi en revenant de l'école, tu passas près d'une pauvre femme qui tenait dans ses bras un enfant pâle et délicat. Elle te demanda l'aumône. Tu la regardas, tu ne lui donnas rien, bien que tu eusses des sous dans ta poche. Écoute, mon enfant, ne t'habitue pas à passer indifféremment devant la misère qui tend la main, et encore moins devant une mère qui demande un sou pour son enfant. Pense que peut-être ce petit enfant avait faim, pense aux angoisses de la pauvre femme. T'imagines-tu les sanglots désespérés que pousserait ta mère si elle devait te dire un jour « Henri, je n'ai pas de pain à te donner ?» Quand je fais l'aumône à un mendiant, il me dit « Que Dieu vous conserve la santé à vous et aux vôtres. » Tu ne peux pas savoir quelle douceur ces paroles ont pour moi et quelle gratitude je ressens pour le pauvre qui les prononce. Il me semble que ce vœu doit conserver tout ce que j'aime et je m'en reviens plus contente à la maison en me disant « Ce pauvre m'a rendu beaucoup plus que je ne lui ai donné. » Fais donc, mon cher Henri, que je puisse apprendre parfois que ta conduite a mérité que ce vœu fût exaucé. Prélève de temps à autre un sou de ta petite bourse pour le laisser tomber dans la main d'un vieillard sans soutien, d'une mère sans pain, d'un enfant sans mère. Les pauvres aiment l'aumône des enfants parce qu'elle ne les humilie pas, parce que l'enfance leur ressemble, elle qui a besoin de tous. As-tu remarqué qu'il y a toujours des pauvres aux alentours de l'école ? L'aumône d'une grande personne est un acte de charité, mais celle d'un enfant est en même temps un acte de charité et une caresse. Comprends-tu ? C'est comme si de sa main tombait en même temps un sou et une fleur. Songe qu'il ne te manque rien et que tout manque aux pauvres. Pendant que tu aspires à être heureux, il ne demande qu'à ne pas mourir. Il est si triste de penser qu'au milieu de tant de maisons riches, dans la rue où passent tant d'équipages et d'enfants vêtus de velours, il se trouve des femmes et des enfants qui n'ont pas de quoi manger. Ne pas avoir de quoi manger, mon Dieu ! Oh, Henri, ne passe jamais plus devant une mère qui mendie sans lui mettre un sou dans la main. Ta mère.